Bon matin. Donc, on va commencer. Content de vous retrouver ce matin. Donc, je poursuis ce matin notre atelier biblique, donc qu'on a commencé depuis quelques semaines sur le livre de Paul Tripp. Donc, croyez-vous vraiment? Donc, c'est vraiment un atelier qui nous permet de revisiter certains éléments importants de notre credo, c'est-à-dire notre confession de foi, en quoi nous croyons. Et naturellement, ce en quoi nous croyons détermine beaucoup d'éléments dans notre vie en tant que chrétien. Donc, on va poursuivre et le sujet du jour, à mon avis, je ne sais pas si c'est le plus important qu'il faut connaître dans la vie chrétienne. Il y a tellement de sujets tellement importants qu'il faut connaître dans la vie chrétienne. Mais quand on parle de la souveraineté de Dieu, je crois que une fois qu'on a compris celle-là, les autres, ça coule de source. Quand on a compris la souveraineté de Dieu, on peut comprendre sa sainteté, on peut comprendre son omniprésence, son omnipuissance, on peut comprendre sa grâce. En fait, tout est comme encapsulé dans la souveraineté de Dieu. On va prier et demander à Dieu de nous guider parce que je n'ai pas la prétention. Je vous invite, donc, il y avait la semaine dernière la table de livres avec le livre original, on va dire, le livre duquel on s'inspire pour le cours, mais naturellement, ce livre n'est pas la Bible. Ce qui est souverain, c'est la parole de Dieu, la Bible. Mais ces livres nous permettent de venir jeter un éclairage et nous amener dans des aspects qu'on ne verrait pas forcément si on n'avait pas l'opportunité de lire un livre d'un auteur comme Paul Tripp. Donc, on va prier, demander la grâce de Dieu afin que ce ne soit pas ma parole, ni celle de Paul Tripp, ni de quelque autre personne, mais que ce soit Dieu qui se serve de ces différents éléments qu'on va voir ensemble ce matin pour nous instruire sur qui il est et naturellement sur sa souveraineté. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, c'est humblement que nous approchons de toi, de ton trône de grâce. Parce que la seule chose qui nous autorise à le faire, c'est parce qu'un jour, alors que nous étions tous errants comme des brebis perdues, Christ est venu mourir pour nous. Seigneur, nous pouvons alors nous approcher de ton trône de grâce avec assurance, sachant que tu nous accueilles, non en ce que nous sommes, mais en ce que Christ a été pour nous. Éternel, ce matin, j'aimerais te supplier par la présence de ton esprit au milieu de nous, de ton esprit, Seigneur, qui habite en nous. Seigneur, viens faire une œuvre nouvelle dans nos cœurs afin de jeter un éclairage nouveau sur qui tu es, en particulier de ce que tu es un Dieu souverain qui contrôle les temps et les circonstances. Que ton nom soit béni et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai la chance de choisir le sujet sur lequel je voulais enseigner, parce qu'on avait le choix dans la liste. Et pour moi, il était une évidence. Quand j'ai vu le sujet sur la souveraineté de Dieu, si vous étiez là à la dernière prédication que j'ai faite et en fin de l'année 2025, le 28 décembre, le titre de ma prédication, c'était « Maître du temps et des circonstances ». Donc, pour moi, c'était comme une belle continuité. Et je vous avais partagé que pour moi, je crois que ce que je voudrais réaliser, si vous me demandez quel est ton plus grand vœu en 2026, ça tourne autour d'un seul mot. Je veux vraiment réaliser, pas seulement de façon intellectuelle, conceptuelle, mais je veux vraiment réaliser dans mon cœur que Dieu est maître du temps et des circonstances. Je veux vraiment le réaliser, le vivre, le traduire au quotidien, que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances, qu'il contrôle toute l'histoire de l'humanité, mais mieux que ça, il contrôle mon histoire en tant qu'enfant de Dieu, il le contrôle, il le contrôlait avant même que je ne sois né, comme le dira le psalmiste, alors que j'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, il savait compter chacune de mes journées. Donc, c'est ce que je veux réaliser. Et pour moi, si j'arrive en décembre 2026, si telle est sa volonté, et que je dise, oh, cette année, j'ai fait un certain progrès dans la réalisation que Christ est maître du temps et des circonstances, non seulement dans l'histoire, mais dans ma vie. Pour moi, ça serait une excellente année 2026. Donc, ce matin, j'aimerais nous entretenir sur la souveraineté de Dieu, une vérité qui transforme la vie. Et pourquoi est-ce que ce sujet est extrêmement important pour le chrétien, comme je le disais en introduction? C'est que c'est vraiment le cadre excellent dans lequel nous pouvons mettre un sens à notre vie. Si nous voulons donner un sens à la vie, vous savez que toute personne, ultimement, recherche quelque chose. C'est donner faire du sens de toutes ses journées, dans sa vie, les choix qu'on fait. On veut savoir, est-ce que c'est sensé? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de chemin? On veut donner un sens à notre vie. On ne veut pas que notre vie soit un accident. C'est-à-dire que c'est arrivé comme ça, on ne sait même pas pourquoi c'est arrivé. On ne veut pas que ça soit accidentel. On veut que ce soit quelque chose qui a été orchestré, voulu, désiré par celui qui contrôle les temps et les circonstances. Dieu dirige l'histoire. Et on va voir au travers plusieurs textes bibliques, vous avez vu que dans les documents qui sont à l'entrée, on ne vous a pas donné le contenu des textes, on vous a juste donné les références, parce qu'on veut que ces temps aussi soient une belle opportunité d'ouvrir nos Bibles pour aller chercher les différents versets. Donc, il dirige l'histoire, il dirige les circonstances, il le fait avec sagesse, il le fait avec puissance, il le fait aussi avec amour. C'est un bon Dieu, un Dieu bon. Sa souveraineté, qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi c'est vraiment important pour nous de savoir que Dieu est souverain? Parce que ça fait la différence. Savoir que Dieu est souverain, ça fait la différence et vous ne pouvez pas savoir combien ça fait la différence. Ça fait la différence parce que ça va nous apporter la paix. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Mais pas comme le monde. Je vous donne, ce n'est pas un traité de paix, ce n'est pas le conseil de Trump sur la paix. Ce n'est pas celui de l'ONU non plus. Ce n'est pas le conseil de sécurité sur la paix. Mais c'est juste le conseil divin de Dieu sur la paix. Voilà ce que la comprendre qui est Dieu nous apporte. Comprendre qui est Dieu nous apporte la confiance. Chaque jour que je me lève, imaginez de savoir, pas seulement de savoir intellectuellement, de savoir dans mon cœur que Dieu contrôle tout. Si Dieu contrôle tout et que je suis son enfant, vous imaginez quelle grâce de passer nos journées? Naturellement, je ne vous dis pas qu'il suffit juste de le dire le dimanche aujourd'hui et après ça va être correct. Après le 15 février, vous n'avez pas à vous inquiéter. Chaque matin quand vous allez vous lever, vous allez avoir des combats et les combats font partie de la vie du chrétien. Parce que malheureusement, nous avons encore, comme nous le dit notre série actuelle dans Romains, nous avons encore une lutte terrible entre ce que nous étions et ce que Dieu nous invite à être. Et cette lutte, malheureusement, très mauvaise nouvelle pour vous, elle va continuer jusqu'au dernier jour. Il n'y aura pas de répit. Le répit, c'est le jour où vous allez rentrer dans la gloire de votre maître. Mais avant ça, si vous n'êtes pas prêt au combat, debout, sainte cohorte. Donc, c'est à cela que Dieu nous appelle. Stabilité du cœur du chrétien. Deux versets pour introduire dans Ésaïe 46, les versets 10 et 12. Donc, vous l'avez en référence. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêtés subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Waouh! Dieu, il fait les plans. Il ne fait pas des plans qu'il n'est pas capable de réaliser. Même les plus grands ingénieurs de ce monde, il fait des plans, mais au moment de le réaliser, il me manque des éléments pour être en mesure de faire tous mes plans. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu, il fait des plans et il les réalise, il les conçoit et il les exécute. Le verset 11 de Éphésiens 1 nous dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à, et suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous voyez, dans ces deux versets, ce qui est intéressant, c'est le mot « volonté ». C'est-à-dire que Dieu ne prend pas conseil auprès de personne. Parfois, vous pouvez avoir un mauvais conseiller. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez un conseiller que c'est la bonne chose que vous avez fait de votre vie. Vous pouvez avoir un conseiller, mais il vous souffle des mauvaises choses dans votre oreille et finalement, vous suivez son conseil, vous vous plantez royalement. Mais Dieu, il n'a pas de conseiller. Il ne prendra ni conseil auprès de vous, ni conseil auprès de moi, ni conseil auprès de quelque autre dignité, autorité, puissance de ce monde. Parce qu'il accomplit tout selon sa propre volonté, sa volonté souveraine. Et la manière dont Paul Tripp aborde ce sujet est intéressante, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant, c'est qu'il aborde la notion de la souveraineté de Dieu au travers de ce qu'il appelle « six fenêtres bibliques ». En fait, c'est un peu comme Paul Tripp nous demande ou nous encourage à faire un voyage dans le temps historique, je veux dire, c'est-à-dire de façon chronologique, de voyager avec lui pour voir comment Dieu a exercé cette souveraineté tout au long des différentes pages de l'histoire. Il n'y a rien de mieux, des fois même dans notre propre vie, de regarder en arrière, de « waouh, Dieu a fait toutes ces choses » et comme ça on apprend à avoir plus confiance en lui. Parce que nous sommes des créatures un peu spéciales. C'est comme si on a une mémoire courte. On oublie vite. Dieu a beau faire des miracles. Regarde le peuple d'Israël, c'est comme l'exemple absolu. Ils ont à peine traversé la mer Rouge qu'ils voulaient retourner où? En Égypte. Parce qu'il y avait quoi? Des poissons et des concombres. Oui, c'est ça. OK. Je crois qu'ils ont oublié qu'ils transportaient la paille et qu'ils pétrissaient la terre toute la journée pour construire des pyramides pour le pharaon. À peine ils ont traversé la mer Rouge qu'ils ont trouvé nécessaire de retourner en Égypte parce qu'il y aurait la viande, des poissons et des concombres en Égypte. Parce que nous sommes des créatures qui oublions trop vite. Alors, Paul Tripp nous dit, retournons dans l'histoire, voyageons. Regardons les différentes grandes fenêtres où Dieu a manifesté sa souveraineté. Donc, je vous invite à la première fenêtre qu'on va regarder ensemble ce matin, qui montre que Dieu domine les puissances. Et je vous ramène donc dans cette logique de Exode, et les chapitres 7 à 12, où on voit toute la puissance de Dieu se déverser sur l'Égypte. Donc, dans cette histoire du peuple d'Israël, dans la délivrance, Dieu agit avec puissance. Il libère son peuple de l'esclavage qui durait depuis plus de 400 ans. Et près de 400 ans qu'Israël était en Égypte. Aucune force humaine ou spirituelle, on a vu toutes les tentatives des sages et des magiciens de l'Égypte pour essayer de concurrencer un peu les prodiges que l'Éternel faisait. Mais tout ça, à chaque tentative, ils se sont rendus compte que c'est comme comparer la puissance, la grande, avec quelque chose qu'on ose appeler puissance et qui n'en est pas une. Et on lit dans Exode, au chapitre 7, le verset 5, « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Et au verset 15 du chapitre 9, il dit, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. » Donc, voyez, Dieu exerce son autorité, il domine les puissances, quelles que soient les puissances. Et au moment où on parlait, dans le temps antique, on parlait de cette histoire, dans le monde, sur la terre habitée, il n'y avait pas de puissance plus grande que celle de l'Égypte. Les Égyptiens, c'était comme... Je ne sais pas, c'était les États-Unis d'alors, ou la Russie, ou la Chine. C'est-à-dire, c'était une puissance dominatrice. C'était une puissance qu'aucune autre puissance terrestre ne pouvait imaginer une seule seconde de défier. Et pourtant, Ce n'est pas une puissance qui a défié le pharaon d'Égypte. C'est un homme avec un bâton, mais rempli de quoi? De la puissance de Dieu. C'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Il n'était pas venu avec une armée de chars, de mitraillettes ou de je ne sais pas quelle arme on utilisait et de prédilection dans cette époque, mais il est venu tout simplement avec la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu, et Dieu a démontré sa souveraineté. Voilà comment Paul Tripp le résume dans une phrase tirée de son livre « Libre traduction ». Donc, il est le Seigneur, le souverain, le monde qu'il a créé avec son vaste ensemble d'éléments accomplit sa volonté. Il ne répond à personne et n'a aucune faiblesse. Il n'y a aucune limite à son autorité et à sa puissance. Je crois que c'est très bien dit. Le monde qu'il a créé, il a conçu, il n'y a rien. Il n'y a pas de faiblesse en Dieu. Vous ne pouvez pas trouver une faille. Voyez, toute puissance humaine a toujours une faille. Sinon, leur grand royaume ne serait jamais tombé. Les plus grands royaumes que les gens ont craint dans toute l'histoire de l'humanité, quelqu'un a fini par trouver le tendon d'Achille. Quelqu'un a fini par trouver la faille par laquelle ils ont détruit littéralement ces royaumes qui étaient censés être indestructibles. Mais Dieu n'a pas de faille. Donc, très mauvaise nouvelle pour ceux qui ont envie de tenter. Si vous pensez trouver un jour une faille à Dieu et pouvoir le surpasser, c'est comme « just too bad » pour vous. Ça ne va jamais arriver. Parce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faiblesse. En Dieu, il n'y a aucune faiblesse. Quelqu'un a tenté avant vous, il s'appelle Lucifer. Vous savez ce qu'il est devenu. Donc, peut-être qu'on pourrait prendre exemple, ce n'est pas toujours un bon exemple, mais on pourrait une fois prendre exemple sur lui pour ne pas tenter la folie qu'il a tentée, de vouloir surplanter son Créateur. Donc, si nous pensons dans notre cœur humain de pouvoir un jour surplanter Dieu, mauvaise nouvelle pour nous, ça ne risque pas d'arriver. La deuxième fenêtre dans laquelle l'auteur nous conduit, c'est que Dieu règne sur les gouvernements. Et là, ça tombe bien parce qu'on est dans une période où on se demande, waouh, est-ce que Dieu règne sur les gouvernements? Quand on voit nos gouvernements, on se dit, je ne suis pas sûr de celle-là. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu règne sur les gouvernements? Vous croyez que Dieu règne sur le gouvernement du Canada? Celui des États-Unis? Corée du Nord? L'Iran? Vous pensez que Dieu règne? C'est, en tout cas, moi, je vous trouve courageux. Parce qu'il y a des matins où je ne crois pas vraiment qu'il règne. Si je veux être honnête, il y a des matins où j'ai l'impression qu'il ne règne pas. Il y a des matins où quand j'entends certaines nouvelles, je dis non, Dieu n'a pas pu autoriser ça. Mais quand je reviens à la parole de Dieu, je suis obligé de conclure quoi? Il règne. Parce que moi, dans ma perspective humaine, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu autoriser ça. Pourquoi il l'autoriserait? Il est bon, il est ci, il est ça, il est ça. Mais si je reviens dans la perspective biblique, je n'ai pas d'autres alternatives que d'affirmer ce que la parole de Dieu affirme, insiste et persiste. Dieu règne. Il règne sur tous les gouvernements et un des exemples les plus criant dans l'histoire biblique, c'est celui du roi Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone était un roi craint. C'était un roi qui a ramassé Israël comme une brindille. Mais, en tout cas, il pensait qu'il a ramassé Israël. Il ne savait pas en ce moment que Dieu lui a donné l'autorité de ramasser Israël. Et même ce roi va faire des déclarations que plusieurs chrétiens aujourd'hui ne sont même pas capables de faire. Donc, l'humiliation que Dieu a infligée à Nebuchadnezzar montre même que les plus puissants dirigeants restent sous le contrôle de Dieu. Voyez-vous, ça c'est rassurant. C'est rassurant de penser que malgré toute la zizanie qui semblent se produire dans le monde avec des dirigeants, des fois on se demande s'ils ont toutes leurs têtes, nous pouvons croire que Dieu règne même sur ces dirigeants. C'est difficile pour nous de comprendre parce que dans notre perspective humaine, ce n'est pas possible. Mais nous devons vraiment accepter que Dieu règne. Je ne suis pas en train de dire, et entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que tout ce que les dirigeants font, ils le font conformément à la volonté et que Dieu désire. Ils ne le font pas dans le sens que Dieu désire, mais cela ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Dieu contrôle même quand il décide ses dirigeants de désobéir. Cette désobéissance fait partie du plan souverain de Dieu. Et pour nous, c'est difficile de comprendre parce qu'on aimerait que le monde tourne exactement comme on l'aurait souhaité, tout parfait. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu gouverne le monde. Donc, quand on lit Proverbe 21, le verset 1, il dit « Le cœur des rois est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Et on voit une des belles déclarations. Honnêtement, quand vous lisez ça, si vous ne savez pas qui parle, vous allez dire, ça c'est comme la déclaration qu'un chrétien doit faire. Mais quand vous réalisez que c'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait cette déclaration-là, vous êtes surpris. Daniel 4, 34 à 35, « Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revient. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Est-ce que je dois dire quelque chose de plus que le roi Nebuchadnezzar? Je crois qu'enfin, il avait compris. Il avait compris qui était le vrai roi, qui était la vraie autorité, qui était le vrai souverain. Et il a déclaré. Et voilà comment Paul Tripp le résume dans son livre au chapitre 7. Il y a un seul roi au-dessus des rois. Il gouverne les dirigeants. Et ce faisant, oriente le cours de l'histoire. Tout ce qui est arrivé dans l'histoire, et je vais vous choquer ce matin, c'est désolé, même Hitler faisait partie du plan souverain de Dieu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu nous éviter celle-là? Mais le jour où je serai Dieu, je pourrais lui poser la question. Et comme je ne serai jamais Dieu, je vais lui laisser ce qui lui appartient. Parce qu'il y a des choses que dans notre perspective humaine, on ne comprendra presque jamais jusqu'à ce que la révélation complète nous soit donnée en sa présence. Et un jour, nous pourrons déclarer avec Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, je la ferme pour de bon. » Parce qu'aujourd'hui, on a comme plein de questions qu'on aurait voulu lui poser. Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais c'est parce qu'il nous manque beaucoup de choses. Oui, Dieu nous a révélé l'essentiel de ce qui est, de ce dont nous avons besoin, mais le reste lui appartient. Donc, bien-aimés, j'espère que nous avons compris. Oui, oui, mon... Oui.
Je voulais savoir tout simplement si la phrase « Dieu a permis » c'est un synonyme de ce que vous venez de dire, que Dieu a autorité. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu, Dieu a permis, Dieu a autorité, mais ce n'est pas nécessairement sa volonté.
Oui, définitivement.
C'est... Parfait, merci.
Parce que quand on parle de volonté souveraine de Dieu, c'est le mot « souveraine » qui vient nous encadrer à cette réalité. C'est que ce n'est pas parce que les gens font ce que Dieu... Ce n'est pas ce que nous faisons, ce que Dieu veut, mais ce que Dieu permet parfois, que même en ne faisant pas ce qu'il aurait voulu, qu'il ne perde pas le contrôle. C'est là la souveraineté de Dieu. Oui. Et la réalité, c'est que ça ne date pas de nos actions, hein. Ça ne date pas de tous ces dirigeants qu'on aurait peut-être jamais voulu qu'ils existent. Ça date du fait que, dans Genèse 3, le péché est rentré dans le monde. Et donc, Dieu compose avec le péché. Dieu aurait voulu guider les choses autrement. Imaginez que le péché ne soit jamais arrivé. Imaginez. On ne sait pas, on ne parlera plus de la même histoire. Mais tout ça a été orchestré souverainement par Dieu. Et j'aime l'image qu'on trouve dans la Bible. On dit, est-ce qu'un potier peut dire, est-ce que l'argile peut dire au potier, mais pourquoi tu es en train de faire tel type de vase avec moi? Non, parce que l'argile est entre les mains du potier. Il fait comme bon lui semble. Troisième fenêtre de l'histoire, Dieu contrôle la nature. Dieu utilise n'importe quel élément, le vent, la mer, un poisson, même un ver, pour accomplir un plan de grâce en faveur de Ninive et en faveur de Jonas, qui avait résolu dans son cœur de fuir Dieu et d'aller se cacher un peu plus loin, quelque part. On lit dans Jonas, au chapitre 1, le verset 4, « Mais Dieu fut soufflé sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, les navires menaçaient de faire naufrage. » Et plus tard, dans le chapitre 2, verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. » Maintenant, je crois qu'il y a quelques scientifiques dans la salle. Quelques-uns qui ont fait leur cours de biologie ou je ne sais pas quel autre cours. Pensez-vous que Jonas a vraiment vécu 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Ceux qui croient, on va voter à main levée, ce n'est pas les élections. OK. Voyez-vous, scientifiquement, vous pouvez me sortir toutes vos théories. Mais la bonne nouvelle, j'ai fait un peu de science. Oui, si la Bible le dit, c'est que ça s'est vraiment arrivé. Je ne doute pas un seul instant que cela soit vraiment arrivé. Et honnêtement, j'aimerais que quelqu'un fasse la démonstration biologique, scientifique, que c'est plausible. Mais je m'en fous. Je m'en fous de la démonstration. Celui qui fait la démonstration, si ça le rassure, tant mieux. Tant mieux si une démonstration humaine le rassure. C'est un peu comme des gens qui cherchent des faits historiques pour corroborer des passages de la Bible. C'est parfait, c'est excellent, c'est même bon. On ne peut pas arrêter de réfléchir. Mais si la Bible le dit, moi je le crois. Si la parole de Dieu le dit, je le crois. Et c'est ce que la parole de Dieu affirme. Paul Tripp dit, Dieu utilise sa puissance souveraine comme un instrument de grâce. La bonne nouvelle, Dieu n'écrase pas. La puissance de Dieu est tellement grande qu'il pourrait nous écraser, mais Dieu ne le fait pas. À chaque fois que Dieu fait la démonstration de sa puissance souveraine, c'est toujours à des fins de grâce. Même quand Dieu châtie, il le fait à des fins de grâce. Il ne le fait pas à des fins de destruction. Il le fait toujours à des fins de grâce. Quatrième fenêtre dans l'histoire, Dieu dirige les petits détails. Et là, c'est Jésus qui donne un exemple frappant. C'est l'exemple des moineaux. Dieu règne sur tout. Jusqu'au moindre détail de notre vie, la souveraineté de Dieu est tellement intime. Et avec nous, la souveraineté de Dieu nous permet d'appeler Dieu quoi? Abba, Père. Dieu souverain, imaginez. Mais si vous étiez né dans une famille royale, vous comprendrez. Si vous étiez né dans une famille royale, vous comprendrez. Imaginez que vous êtes le fils du roi d'Angleterre, Charles III. Est-ce que vous pensez que je peux appeler Charles III en sortant de culte aujourd'hui? Je lui lance un petit coup de fil. Charles, comment vas-tu? Non. Mais quelle relation pensez-vous que ses enfants ont avec lui? Est-ce qu'il peut faire cet appel? Allô, papa, comment tu vas? Certainement que oui. Certainement que oui. Et c'est ça la particularité entre nous et Dieu. Oui, Dieu est souverain. Oui, Dieu est puissant. Oui, Dieu contrôle tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dirige tout dans les moindres détails en faveur de ses enfants. Matthieu 10, les versets 29 et 31 nous dit, « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. » Et Jésus, de renchérir dans ce que Paul Tripp nous dit, Jésus identifie ce souverain, ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Jésus l'identifie comme notre Père, votre Père. Vous imaginez que le roi, un président de la République, un premier ministre, vous soyez son fils. Vous pouvez prendre autorité parce que c'est votre Père. Oubliez l'idée d'un Dieu lointain et impersonnel dans son autorité sur le monde. C'est notre Père qui gouverne le monde. Moi, honnêtement, si mon père était tout simplement un grand directeur, je serais déjà content que ce soit mon père. J'ai dit, OK, est-ce que tu connais mon père? C'est lui le... Et s'il était un président, waouh, s'il était un roi, moi, j'arrive ici, je me présente, je vais oublier mon propre nom. Je vais toujours me présenter le fils de. Vous comprenez pourquoi il y a des gens, même 10 générations après, ils continuent par utiliser le patronyme d'un de leurs ancêtres le plus connu. Ils ajoutent à tout leur nom ce petit nom avec un tiret, juste pour qu'on puisse faire le lien avec de qui ils viennent vraiment. Alors moi, j'aimerais à chaque instant pouvoir rattacher mon nom, mon histoire, au nom de ce souverain qui gouverne toutes choses. C'est ça le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Cinquième fenêtre dans l'histoire, c'est que Dieu dirige la mission. Voyez-vous, Dieu orchestre la prédication de l'Évangile, Dieu orchestre qui doit entendre l'Évangile, quand, la foi, comment elle doit naître, à quel moment. Le salut n'est pas un hasard, c'est un destin planifié par Dieu. Notre salut, ce n'est pas quelque chose qui nous vient comme ça, on dit « wouf, je suis tombé dedans ». Non, 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 vous n'êtes pas tombé dedans. Dieu l'a orchestré d'une manière parfaite, et ce, avant même le commencement des temps. Acte 13, le verset 48 nous dit, « Les païens se réjouissaient en attendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Et Paul Tripp de renchérir, « Dieu n'est pas seulement souverain dans les résultats, mais aussi sur chacun des aspects du processus qui produit ces résultats. » Et pour moi, ça, c'est une révélation. Et en préparant cet atelier, c'est qu'il y a une phrase qui est devenue banale même dans l'Église. C'est que c'est la fin qui justifie quoi? J'espère que c'est la dernière fois. La fin ne justifie pas les moyens, parce que Dieu contrôle aussi les moyens. Dieu a un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat seul qui compte. On est dans un monde où on nous dit, arrange-toi, l'essentiel c'est d'arriver au résultat. C'est pas ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu ne me dit pas de m'arranger comme bon me semble, pourvu que le résultat soit à la volonté de Dieu. La parole de Dieu me dit que même le moyen par lequel je dois arriver au résultat doit être sous le contrôle de la souveraineté et de la puissance de Dieu. Et ça, vous savez en quoi cela est absolument important de comprendre que Dieu ne contrôle pas seulement les résultats, mais les moyens, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser n'importe quel moyen. Aujourd'hui, si vous voulez devenir riche, il suffit d'aller sur les internets. Il y a 150 moyens de devenir riche. Hein. Et après, vous pouvez donner beaucoup d'argent à l'Église de l'espoir. Mais c'est parce que Dieu me dit. Dieu me dit que je peux amener tout l'argent et l'or du monde ici pour son œuvre et Dieu lui va cracher dessus parce que je n'ai pas utilisé les bons moyens pour y arriver. Donc, la soin de Dieu va jusque dans ces petits détails, dans les moyens, ce n'est pas juste dans le résultat. Parce que si c'est le résultat qui compte, regarde, le conseil des anciens, nous, on va vous acclamer. On peut faire un plus gros centre de formation, on va pouvoir embaucher 15 nouveaux pasteurs en temps plein, et on va pouvoir créer de nouveaux points d'évangélisation, des nouvelles églises, faire de l'implantation. Mais tout ça, c'est bien beau, pourvu que les moyens aussi viennent de lui. C'est extrêmement important. Sixième fenêtre de l'histoire, Dieu fixe lieu et saison, et on le voit tellement de façon brillante dans Actes 17. Donc, Dieu détermine les temps, les lieux, les circonstances, afin que chacun puisse le rencontrer. Dieu, il orchestre tout. Rien dans notre vie n'est aléatoire. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Voici ce que la Bible nous enseigne dans Actes 17. Donc, quand on lit Actes 17, il est écrit à partir du verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis de ces Paul qui parle aux Athéniens, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils se forcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Et Paul Tripp, dans son livre, conclut cette dernière fenêtre en disant, « Non seulement Dieu nous a créés chacun, mais il a également déterminé la durée exacte de nos vies, l'endroit précis où nous habiterons. Dieu est souverainement proche de chacun de nous à chaque instant. » Et là, je vais ouvrir une petite fenêtre. Et j'ai vraiment trouvé ce commentaire de Paul Tripp tellement à propos, surtout dans cette phrase. Dieu détermine la durée exacte de nos vies. Ça, je crois que tout le monde était conscient de ça. Mais on dit que l'endroit précis où nous habiterons. Ça, je l'ai réalisé en préparant. C'est-à-dire que ma présence au Canada n'est pas un hasard. Le fait que je sois à l'église de l'Espoir ce matin, ce n'est pas un hasard. Dieu l'a orchestré. Voyez-vous, si nous comprenons ça, on va arrêter tous les débats sur l'immigration. Si nous réalisons cette vérité-là. Les gens ne choisissent pas de vivre où ils veulent vivre. Si nous croyons que Dieu détermine pas seulement la durée de leur vie, mais l'endroit exact qu'il veut qu'ils vivent à l'instant T dans l'histoire de l'humanité. Nous devons tout simplement rendre grâce que Dieu nous fait habiter aujourd'hui ici, demain ailleurs, le surlendemain quelque part d'autre. Tout ça lui appartient. Tout ça lui appartient. Ce n'est pas de notre ressort. Nous devons tout simplement prier que Dieu nous donne les moyens et les opportunités d'accueillir cette réalité, cette vérité, et de la vivre pleinement en fonction de ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc, voici comment Paul Tripp va plus loin que ça. Il ne se contente pas de définir c'est quoi la souveraineté de Dieu au travers différentes fenêtres de l'histoire, mais il nous amène à voir, OK, maintenant que je sais tout ça, on va dire, on vient de finir la théorie. C'est-à-dire que je sais comment Dieu fonctionne, j'ai vu des exemples dans l'histoire. OK, je commence par me faire une idée que, ouais, je crois que Dieu contrôle les temps et les circonstances. Maintenant, Paul Tripp nous dit, OK, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que ça change? Demain matin, tout à l'heure, ça change quoi? Quand tu vas sortir du culte aujourd'hui, ça change quoi? Qu'est-ce que ça va transformer dans ta vie parce que tu connais cette réalité de la souveraineté de Dieu? C'est la dernière partie de notre atelier aujourd'hui. Donc, Paul Tripp passe par ce qu'il appelle « huit vérités pratiques ». C'est-à-dire, comment est-ce que cette compréhension de la souveraineté de Dieu va comme s'incarner dans notre quotidien. La première, c'est que comprendre la souveraineté de Dieu nous permet d'interpréter correctement son monde. Vous voyez, est-ce que le monde dans lequel nous vivons vous appartient? Le monde dans lequel vous vivez, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que le Canada vous appartient? Non. En fait, on a hérité tout ça. Quelqu'un a fabriqué tous ces continents, tous ces pays. Quelqu'un les a créés. C'est son monde à lui. Si nous voulons comprendre comment il fonctionne, c'est comme quelqu'un qui a fabriqué une machine. Vous ne voulez pas comprendre comment la machine fonctionne si vous n'écoutez pas les instructions de celui qui l'a fabriquée. Donc, comprendre la souveraineté de Dieu permet une interprétation des événements qui influencent grandement notre paix. La souveraineté de Dieu nous apprend à regarder non aux circonstances, mais à regarder à Dieu qui règne réellement sur ces circonstances. Et le psaume 135, le verset 6 nous dit, « tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux, sur la terre et dans les mers et dans toutes les abîmes. » Tout ce que Dieu veut, il le fait. Donc, voici notre première réalité, c'est comment interpréter ce qui se passe autour de nous. La deuxième réalité, c'est qu'il ne faut pas penser que parce qu'on parle de la souveraineté de Dieu, nous, on n'a rien à faire. C'est-à-dire, comme Dieu contrôle tout, c'est quoi, moi, mon rôle? Dieu, il contrôle tout. Moi, je ne sers à rien. Il contrôle tout. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Dieu nous enseigne, la Bible nous enseigne qu'il y a deux cercles de responsabilité. Il y a des choses que Dieu assure son contrôle, il y a des choses que Dieu a déléguées. Voyez, quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un, vous ne regardez pas par-dessus son épaule pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est plus de la délégation. Si vous déléguez quelque chose à quelqu'un, c'est que vous lui faites confiance et vous voulez qu'il prenne ses responsabilités. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous devons distinguer ce que Dieu nous confie et qui relève de notre responsabilité parce que Dieu nous a confié, nous a délégué et ce qui relève uniquement de lui. Uniquement de lui. Cela libère du fardeau du contrôle. Vous voyez, parfois même dans nos petites vies, il y a des choses qui nous arrivent, on aimerait vraiment prendre le contrôle là. Comme au Québec, on connaît bien l'expression « avoir quoi ?» Les deux mains sur le volant, on veut « Ah Seigneur, c'est moi qui suis dans la cabine de commande. » C'est ce qu'on voudrait avoir. Mais quand on réalise que tout ne dépend pas de nous, on ne veut pas avoir toujours les deux mains sur le volant. Parfois, on veut juste être dans une voiture automatique. Quelqu'un qui conduit, nous on est assis derrière. Parce que ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Et parfois, Dieu va dire, « Ok, va devant, c'est toi qui as cette responsabilité. Je veux que tu nous amènes jusqu'ici. » Donc, essayons de faire l'effort de distinguer cela. Le Proverbe 16, le verset 33 dit, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Troisième application, la souveraineté produit l'humilité et la joie. Pourquoi? Parce que savoir que Dieu règne, ça nous rend petits. On est d'accord? Savoir que Dieu est au contrôle, c'est lui le souverain, ça nous rend petits. Mais cela nous remplit de joie, parce que nous n'avons pas à tout porter sur nous. Nous ne contrôlons pas tout, mais celui qui nous a aimés contrôle absolument tout. Jacques 4, le verset 15 nous dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu nous dit, ok, ça c'est sous mon contrôle. Si tu le veux, Seigneur, je ferai ceci ou cela. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais parce qu'il veut. Quatrième application, la souveraineté demande la soumission du cœur. Vous ne pouvez pas croire que Dieu est souverain si vous n'êtes pas soumis dans votre cœur. Et on a vu un exemple concret dans le livre des Rois avec le prophète Élie au Carmel. La souveraineté de Dieu appelle à une réponse d'abandon. Suivre pleinement celui qui est le seul vrai Dieu. Vous vous rappelez cette bataille entre les 400 prophètes de Baal et Élie qui était resté le seul prophète et fidèle à l'Éternel. Et Élie dit, ok les amis. Aujourd'hui, faites le choix. Un peu comme avant lui, Jésus l'avait dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir, les dieux que vos parents ont servis de l'autre côté du Jourdain ou en Égypte, ou suivez l'Éternel. Et Élie met le peuple devant le même choix. vous avez les 400 prophètes, venez faire vos démonstrations, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Et moi aussi, je vais faire la démonstration de mon Dieu et on verra qui va répondre. Et effectivement, à la fin de la journée, les autres se sont lacérés tout le corps avec plein de gymnastique, ça n'a rien donné. Élie a prié, le feu est descendu, merci, bonsoir. Tout le peuple est revenu de tout leur cœur à l'Éternel, mais pourvu que ce retour soit un retour qui reste et qui demeure. Donc, vous trouverez l'histoire dans le premier livre des Rois au chapitre 18. La cinquième application qu'on peut faire, c'est que la souveraineté de Dieu n'élimine pas la confusion. Et ça, j'aime bien la manière dont l'auteur l'apporte. Dieu laisse volontairement certaines choses mystérieuses pour nous conduire à la confiance plutôt qu'au contrôle. Nous sommes vraiment, comme je le dis et je le répète, on aime avoir les deux mains sur le volant. Ça fait partie de notre nature humaine. Mais Dieu permet la confusion parfois. Parce que si on avait vraiment les deux mains sur le volant, vous imaginez les catastrophes qu'on aurait pu faire? Pensez pas à l'échelle mondiale, hein, juste à l'échelle de nos familles, à l'échelle de notre propre petite vie. Si on avait les deux mains, qu'on contrôlait vraiment tout, on aurait pu faire beaucoup de dégâts. Mais parfois, Dieu laisse une partie qui nous échappe pour nous montrer qu'à la fin de la journée, le vrai boss, c'est qui? C'est lui. Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes les choses qui lui sont soumises. Donc, Dieu permet ce petit élément de mystère pour nous conduire à comprendre que le contrôle, ce n'est pas ce qui est le plus important, mais c'est la confiance à l'Éternel. Sixième application, et ça, on le trouve dans un passage qu'on va aborder très bientôt, dans Romains, chapitre 8, les versets 28 à 29. Et cela nous permet de comprendre différemment, parce que ce passage a été tellement utilisé, tellement maladroitement dans les églises, quand on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on dit, ça c'est bon ça, je vais devenir riche. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu ne parlait pas forcément de ça. Le bien n'est pas le confort terrestre, mais la transformation à l'image de Christ. Quand Dieu nous parle, tout concourt au bien. Le bien le plus important que Dieu veut pour nous, ce n'est pas que nous soyons bien sur la terre. Même si vous êtes, regardez, prenez de l'histoire, on va dire récente. Quand vous regardez l'histoire récente, les hommes les plus puissants autour de nous, les Elon Musk, les Bill Gates, les Bezos, tous ces gens-là, vous croyez qu'ils contrôlent leur vie? Vous croyez vraiment qu'ils contrôlent leur vie avec tous les moyens qu'ils ont? La réalité, non. La réalité, non. C'est que si nous réalisons que le bien ultime que Dieu désire, ce n'est pas notre satisfaction sur la terre, mais c'est de lui appartenir, parce que cela nous garantit une satisfaction éternelle, un bien éternel que rien ne peut, Jésus dira à ses disciples, amasser là, parce que là, rien ne peut détruire, il n'y a pas de rongeur, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien qui peut détruire ces biens, parce que tout ce que vous allez amasser sur la terre, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, voilà là où Dieu veut nous conduire. L'avant-dernier point, la souveraineté motive la prière. Parce que nous savons que ce n'est pas sous notre contrôle, c'est plus facile pour nous dire, « Seigneur, celle-là me dépasse, donc je te la donne. » Et le seul moyen de dire, « Seigneur, celle-là me dépasse, je te la donne », ça s'appelle, chez les chrétiens, la prière. La prière, c'est l'outil que Dieu nous donne pour lui dire, ça nous dépasse, on n'est pas capable, toi viens le faire parce que tu es souverain. Donc, la Bible nous exhorte à cela, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. J'aime bien le mot « toute ». Moi, quand je lis des versets, souvent ce n'est pas le verset qui m'intéresse, c'est les mots du verset qui m'intéressent. Il ne dit pas « et Dieu les délivre de certaines de leurs détresses ». Si tu cries, Dieu te délivre de toutes tes détresses. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va faire en sorte que tu puisses arriver exactement là où tu voulais aller. Je suis en train de dire que même dans la détresse, Dieu va être présent, en sorte que même ta détresse, tu vas la vivre comme une occasion de grandir avec Dieu. Dernier point d'application, la souveraineté de Dieu donne la force de continuer. Vous savez, tôt ou tard, un jour, vous allez arriver à un point où vous allez dire, « Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Tu peux venir me reprendre. J'en ai assez. Je suis fatigué. » Pour mille et une bonnes raisons ou mille et une mauvaises raisons, vous allez arriver à un point où vous dites, « Si ça pouvait s'arrêter maintenant. » La seule chose qui vous permet de mettre le prochain pas devant vous, parce que Dieu a décidé que ça ne s'arrêtait pas maintenant, c'est de croire qu'il est souverain. Et si ça vous arrive, ce n'est pas parce que vous faites partie des mauvais chrétiens. C'est tout simplement parce que vous faites partie des vrais chrétiens, tout simplement. Parce que le grand Élie, vous voyez le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a défié les 400 prophètes de Baal, vous savez ce qu'il a fait quelques jours après? Seigneur, finis avec moi. Je ne vaux même rien. Tue-moi, fais ce que tu veux, mais maintenant c'est assez. C'est qui parle là? Ce n'était pas le même sur le mont Carmel il y a quelques jours qui défiait 400 prophètes de Baal et maintenant il est là à crier comme si c'était la fin du monde. Et il a fallu tout simplement que Dieu lui démontre encore sa souveraineté pour qu'il réalise qu'il pouvait encore faire un pas parce que Dieu avait un reste en Israël que Dieu avait gardé et il était en train d'encourager son serviteur de faire. Je ne sais pas où tu es rendu dans ta marche avec le Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche en tant que chrétien, dans ta famille, dans ton travail. Peut-être que tu es sur le point de dire, moi je lâche tout, la job, on verra ça plus tard. Peut-être que tu es dans tes études, tu dis, ce bac ne finit pas de finir, donc on va faire autre chose de notre vie. Peut-être que tu es dans un ministère à l'église, tu dis, avec toutes les critiques que je reçois plutôt que des encouragements, je crois que je devrais faire quelque chose de plus utile de mon temps. Je ne sais pas où tu es rendu dans ta marche avec le Seigneur ou dans quoi tu vis, mais si tu as besoin de la force pour continuer, tu peux la puiser ce matin, pas dans ce que tu es capable de contrôler, mais dans ce qu'il est capable de contrôler. Alors, je nous laisse quelques questions de réflexion. Et on n'a pas le temps de faire, par exemple, de petits groupes, mais j'aimerais que ces questions nous accompagnent et pour le reste. Et si quelqu'un a une exhortation à nous donner, on a environ encore 7-8 minutes. Donc, voici quelques questions que je mets à notre réflexion aujourd'hui. Quelle fenêtre biblique vous a le plus éclairé? On a parlé de nos fenêtres bibliques dans la première partie. Est-ce qu'il y a une fenêtre biblique qui dit « je n'avais pas réalisé que Dieu avait le contrôle, par exemple, sur les petites choses ou sur les événements de la vie ou sur les éléments de la nature. » Et il y a une catastrophe qui arrive, une tempête qui dévaste toute la Floride. Vous dites « C'est quoi ça encore qui est arrivé ?» Qui dévaste une île, il n'y a plus rien. Qui est... Donc, est-ce qu'il y a une fenêtre dans l'histoire qui vous a le plus éclairé aujourd'hui? Quelle situation vous semble aujourd'hui dans votre vie personnelle hors contrôle? Vous dites, celle-là, honnêtement, ça ne va pas. Honnêtement, j'ai perdu le contrôle. Peut-être que vous avez perdu le contrôle de votre ministère. Peut-être que vous avez perdu le contrôle de vos finances. Peut-être que vous avez perdu le contrôle de votre emploi. Je ne sais pas dans quel domaine. On a plein de mille et un domaines qu'on peut citer. Y a-t-il un contrôle, un élément dans votre vie où vous dites, là, je ne suis plus au contrôle? Alors, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux placer cet élément sous le contrôle de celui qui contrôle tout. Troisième question, quel élément remettre entre les mains de Dieu? Donc, les deux questions se suivent. Si tu as perdu contrôle, je crois que la prochaine chose à faire, c'est le confier à celui qui contrôle tout parfaitement. Le prochain point, c'est comment Romains, qu'on a regardé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon ses desseins, change votre perception de la souffrance. Peut-être que vous traversez des moments difficiles, souffrants, pénibles. Mais quand vous savez que tout concourt à votre bien, pas forcément terrestre, mais à votre bien éternel, est-ce que cela change la perspective que vous avez sur la situation difficile que vous vivez? Et enfin, et dernière question de réflexion, en quoi Dieu vous appelle-t-il à l'abandon cette semaine, ce mois ou cette année? Et des fois, nous sommes, moi, j'apprends à chanter les cantiques, on va dire, sans texte, parce que je n'avais pas de texte pour chanter les cantiques, donc on les chantait une ou deux fois à l'église et il fallait s'arranger pour le connaître par cœur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. C'est ça le cantique avec lequel j'aimerais que nous puissions partir ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. En fait, il n'y a rien que vous avez, qui est vraiment votre. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite. La souveraineté de Dieu n'est pas une idée abstraite comme on vient de le voir. C'est elle qui est la source de notre paix. Vous voulez vivre en paix? Vous voulez ne pas passer votre journée à vous demander le pourquoi du comment, du pourquoi du comment? Alors, rappelez-vous que Dieu est souverain. C'est la source du courage et de la persévérance du chrétien. Dieu règne, Dieu aime, Dieu est proche. Rien, absolument rien, absolument rien ne peut arrêter ses desseins qui sont parfaits pour tous ses enfants. Tous les desseins de Dieu sont parfaits. Même si cela doit passer par la souffrance, que nous n'aimons pas, il n'y a pas des gens qui aiment souffrir, en tout cas, il paraît qu'il y en a quelques-uns, mais si on fait abstraction de ceux qui veulent souffrir pour le plaisir, il n'y en a pas beaucoup sur la planète qui veulent souffrir pour le plaisir. Alors, sachez-le que tout concourt au bien des enfants de Dieu selon les plans absolument parfaits que l'Éternel. Et le prophète Jérémie nous dira, il a établi pour nous quoi? Des plans de paix et de bonheur, des plans pour que nous soyons en paix et heureux, le bonheur. Que le Seigneur nous aide à réaliser la souveraineté et à nous placer sous cette souveraineté. Oui, définitivement, une ou deux questions, on va arrêter. Merci.
C'est à la page 4, merci, c'est à la page 4, le point 5. La souveraineté n'élimine pas la confusion. Moi, j'ai un malaise avec ce mot-là. Mais si par confusion, vous voulez dire, j'ai pris un verset, dans 2 Chroniques 20, le verset 12, puis 2 Chroniques 20, c'est le merveilleux chapitre qui parle de la victoire de Josaphat dans la louange.
Oui.
Alors, si je lis le 2 Chroniques 20 et 12, ça dit, « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Est-ce que si vous dites confusion, c'est synonyme d'interrogation, c'est synonyme de mes yeux sont sur toi? Merci.
Oui, c'est même mieux que ça parce que par confusion, ce qu'on entend, c'est que imaginez que le plan de bataille de Dieu pour Josaphat, c'est dit, OK, Josaphat, il y a 3 grandes armées qui se sont liées, ce n'est pas une grande armée, 3 grandes armées se sont liées pour te combattre. Toi, comme plan d'attaque, prends pas d'armes. En fait, moi, si j'étais Josaphat, j'allais dire, Dieu, je crois que tu n'as pas bien compris la situation. C'est-à-dire qu'il y a 3 armées avec des chars et des milliers de combattants. C'est eux qui m'attaquent. Et toi, tu dis de venir les mains vides. Non, non, Dieu dit, non, non, ce n'est pas les mains vides. Viens avec des cruches, avec des flambeaux cachés sur les cruches. Ça va être suffisant pour le plan de bataille. Avec des chantres en avant et on va chanter. On ne va pas pour... un gala parti là, on va pour une bataille. Voici la confusion. Dans la tête de Josaphat, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais il devait être rempli de confusion, et pas à peu près. Et l'autre exemple biblique que je peux vous donner, c'est Gédéon. Gédéon qui doit combattre les Madianites, et Dieu lui dit, écoute, n'envoie pas tout le peuple au combat parce que ça va être la catastrophe. Mais eux, ils sont des centaines de milliers de personnes, des milliers de personnes. Comment tu veux que j'aille au combat? Dieu dit, OK, prends juste ceux qui n'ont pas peur dans le peuple. Josaphat fait le décompte, il est rendu à 30 000 personnes environ, 32 000 exactement, je crois. Et après ça, Dieu dit, ils sont trop nombreux. Mais comment ils sont trop nombreux? Déjà que nous sommes 30 000, c'est rien par rapport à l'armée. Et Dieu leur donne un test. Allez dans la rivière, ceux qui vont laper l'eau comme lapent les chiens, c'est eux que tu gardes. Malheureusement, il n'y avait que 300 personnes. Et Dieu dit, avec les 300 personnes, je vais livrer Madian. Imaginez la tête de Gédéon quand Dieu lui a dit, avec 300 personnes, je vais délivrer. Il a dit, il est tombé sur sa tête, Dieu. Confusion totale. Sauf que, avec 300 personnes, Dieu a délivré tout le peuple. Et Dieu aime ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en créant cette confusion en nous, Dieu nous permet de ne pas dire, on l'a bien mérité celle-là, on a travaillé fort. Dieu nous permet de réaliser finalement, oui, celle-là, ce n'était pas la nôtre. Nous, on n'a rien pu faire parce qu'on ne combat pas avec 300 personnes. C'est vraiment celle de Dieu. Donc, c'est ce que ça veut dire. Merci pour la précision. Donc, avec votre permission, on va prier et remercier le Seigneur et espérer que Dieu, au travers de ce livre de Paul Tripp sur la souveraineté qu'on a abordé aujourd'hui, que nous réalisons, pas seulement théoriquement, mais concrètement, quelle implication ça a dans nos vies chaque jour et surtout que nous allons lui faire confiance. Parce que s'il est souverain, nous pouvons lui faire confiance. Prions le Seigneur. Éternel.